depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un.
Oh oui, et un beau.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading, comme chaque jeudi, 20h-21h, le samedi 13h-14h, et sur campus3.fr. Bonne année à tous. Bonne année, Elodie.
Bonne année, Sonia.
Alors, comment vas-tu?
Ça va bien. Très bien. Écoute, première émission de l'année, c'est très bien.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, qu'avons-nous au sommaire de cette émission?
Eh bien, on va commencer à faire un peu le tour de ce qui va se passer cette année au niveau jeux vidéo.
C'est bien ça.
C'est ça. On enchaînera ensuite sur un jeu de dés. Un jeu avec des dés.
D'accord.
Ensuite, on parlera d'un forum RP, puis d'une bande dessinée, pour poursuivre ensuite avec l'actualité cinéma. Et notre petite rubrique, que sont-ils devenus?
Oui, qu'est-elle devenue cette actrice de film des années 80?
Ok.
Oui, avec toujours un petit blind test.
Et on finira avec une série documentaire.
D'accord.
Qui va vous faire un peu frissonner.
Okay. D'accord, très bien. On commence donc tout de suite par les jeux vidéo. Petit tour d'horizon des jeux attendus en 2019 avec en janvier New Super Mario Bros. U Deluxe sur Switch, ce sera le 11 janvier. Resident Evil 2, le remake sur PS4, Xbox One et PC le 25 janvier. Le Kingdom Hearts 3 sur PS4 et Xbox One, ce sera pour le 29 janvier. Crackdown 3, Xbox One et PC le 15 février, également le 15 février. Metro Exodus sur PC, PS4 et Xbox One. Il y aura Anthem sur PC, PS4 et Xbox One le 22 février. Anno 1800 sur PC le 26 février. Devil May Cry 5 sur PC, PS4 et Xbox One le 8 mars. The Division 2 sur PC, PS4 et Xbox One le 15 mars. Sekiro Shadows Die Twice sur PC, PS4 et Xbox One, ce sera pour le 22 mars. Ensuite, en avril, nous aurons le Mortal Kombat 11 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Donc, ce sera pour le 23 avril. Également en avril, le 26, il y aura le jeu Days Gone sur PS4. Puis en mai, Rage 2 sur PS4, Xbox One et sur PC, le 14 mai. Crash Team Racing Nitro Fueled sur Switch, PS4 et Xbox One le 21 juin. Et ensuite, le très attendu Shenmue 3 sur PC et PS4, ce sera pour le 27 août. Et puis un petit peu plus tard dans l'année, il y aura Pokémon RPG sur Switch. The Last of Us Part 2, donc un petit peu plus tard, en fin d'année. Death Stranding, Gears of War 5, Cyberpunk 2077. Bien sûr, cette liste est non exhaustive. Certains titres peuvent être, bien sûr, repoussés en 2020. Voilà, en tout cas, pour les gros titres attendus cette année. On passe à la musique.
Oui,
avec un petit Bon Jovi, It's My Life, et ensuite tu nous parleras de Dédé, c'est ça?
Non, d'un jeu qui se joue avec Dédé.
Ah, un jeu avec Dédé.
Oui, dont je crois que je ne suis pas sûre d'avoir parlé, il y a une version carte aussi de ce jeu, voilà, on va se retrouver au western, dans un western.
Ok, on écoute donc Bon Jovi, It's My Life, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi 13h-14h, et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu nous parles d'un jeu de dés.
Oui.
Oui.
C'est un jeu qui s'appelle Bang. Alors c'est un jeu qui existe aussi au format carte, et j'ai testé il y a quelque temps le format dés que je ne connaissais pas du tout. Donc nous sommes dans l'univers du Far West et vous allez entrer dans une bataille entre le shérif et les hors-la-loi. Donc chaque joueur va incarner en fait un des personnages. Donc il y a forcément le shérif qui peut avoir des adjoints, et puis il y a également donc le renégat et les hors-la-loi. Le but du jeu, en gros, c'est que le shérif soit toujours vivant à la fin de la partie. Et qu'il tue tout le monde. Le renégat doit rester le dernier de la partie. Donc il doit faire en sorte que les hors-la-loi soient tués, mais que le shérif ne soit pas tué non plus trop tôt, puisqu'ils sont tous contre les hors-la-loi et les hors-la-loi contre les renégats. Donc voilà, il faut bien jouer pour savoir sur qui tirer, en fait, qui tuer, pour essayer de gagner. Donc chaque joueur va avoir un rôle. Donc celui du shérif, évidemment, le shérif, il va dire qu'il est le shérif, on le sait, c'est comme ça, hein, il a sa petite étoile sur lui, on sait que c'est lui. Les autres cachent leur identité, donc on ne sait pas qui est le renégat, on ne sait pas qui sont les hors-la-loi, ni qui sont les adjoints du shérif, on ne sait pas non plus. Et puis, chaque joueur va également tirer une carte personnage, qui cette fois-ci sera dévoilée, où on va connaître donc le nombre de vies qu'il a par rapport au nombre de balles qui sont représentées sur sa carte, et également les pouvoirs qu'il peut avoir. Donc il y en a diverses et variées, mais qui peuvent permettre de relancer des dés, ou que certaines phases de dés soient plus sympas pour lui que pour un autre, et ainsi de suite. Et donc sur ces fameux dés, puisque ça se joue donc avec des dés, on a le droit de les lancer deux fois, je crois, enfin de les relancer deux fois. Vous allez avoir des flèches. Donc les flèches, ce sont les Indiens. Donc lorsque vous avez des flèches, vous les récupérez, et au bout d'un moment, quand toutes les flèches sont tombées, les Indiens débarquent, et tous ceux qui ont des flèches perdent autant de points de vie que de flèches. Donc il vaut mieux les éviter. Vous avez la dynamite. Donc la dynamite, ce sont des dés qu'on ne peut pas relancer. Et si jamais vous tombez sur 3 dynamites ou plus, vous perdez un point de vie. Ça fait un peu mal, la dynamite. Vous avez ensuite des viseurs, qui sont un viseur ou deux viseurs. Ça vous permet soit de tirer sur le copain d'à côté, soit de tirer deux places après vous, en fait. Donc de tirer un peu en biais sur le copain d'en face. Vous avez également des bières qui vous permettent de retrouver un peu de vie. Somme au Far West, hein. Pour retrouver de la vie, c'est de la bière. Et puis également des mitrailleuses qui là cette fois-ci vont permettre de faire perdre des points de vie. Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'était déjà ça? Ah oui, non, faut en obtenir plusieurs pour pouvoir en fait retirer des flèches. Ça vous permet de vous défendre en fait contre les flèches des Indiens. Donc, alors c'est un jeu de dés, donc ça reste un jeu de hasard, mais en tout cas pour un jeu un peu rapide, parce qu'il existe la même chose sous forme de cartes, mais sous forme de cartes ça dure un petit peu plus longtemps. Là ça peut permettre de faire un petit jeu voilà, rapide, pourquoi pas un jeu d'apéro. Et donc c'est plutôt sympa, ça se joue de 3 à 8 joueurs, donc ça peut être aussi quand même pour une bonne tablée de joueurs. C'est pas très compliqué, c'est vraiment qu'avec des dés, donc une fois que vous avez compris les combinaisons de dés, tout va bien. C'est à partir de 8 ans et ça dure environ un quart d'heure une partie. Ça dépend si vous êtes rapide ou pas pour tuer les autres, les copains. Donc c'est un petit jeu sympathique, et puis ce qui est bien, c'est que si jamais ça vous a plu mais que vous avez envie de, je sais pas, un peu plus, que ça soit un poil plus complexe, vous avez donc la version carte qui est très sympa aussi. Voilà, donc c'est aussi, faut savoir jouer, faut pas tirer tout de suite sur ceux qu'on veut éliminer.
Faut être tactique.
Ouais, faut être un peu tactique, faut cacher un peu qui on est pour pas se faire avoir. Donc voilà, c'est rigolo comme tout. Donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle Bang, le jeu de dés. Voilà.
D'accord, très bien. Merci Elodie. On repasse à la musique et ensuite je vous parlerai du forum roleplay à l'honneur cette semaine, qui est inspiré d'une série. Avec une servante rouge.
Ah, je ne vois pas du tout.
Non, tu ne sais pas ce que c'est.
Absolument pas.
On écoute Love is All et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, première émission de cette année 2019, en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, on passe tout de suite maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine. Ça s'appelle Praised Be et c'est dérivé de la série The Handmaid's Tale. C'est dur à dire.
La servante écarlate.
Voilà, c'est plus simple, la servante écarlate. Et donc, qui prend place dans une ville fictive en Amérique qui s'appelle Aberdeen, et ça se passe de nos jours. Alors, c'est un forum qui est évolutif. Il est donc basé sur le jeu des membres. Ça veut dire que, en fait, chaque action des joueurs peut avoir une incidence sur l'histoire, en fait. Voilà. C'est un forum qui n'est pas très très vieux, il date du 29 septembre 2018. Au niveau des graphismes, on est dans plutôt du graphisme clair, sur les tons de gris. Et quand vous arrivez sur ce forum, il y a un petit guide, un guide de l'étranger. Voilà, donc ça peut être pas mal puisqu'il y a quand même pas mal de choses à lire dans ce forum. Et du coup, moi j'apprécie quand il y a un forum un petit peu complexe où il y a pas mal d'annexes à lire, où il y a un petit guide qui est proposé, voilà. C'est pas obligatoire pour tous les forums parce qu'il y a des forums qui sont très simples. Mais là, en l'occurrence, il est pas mal. Donc vous allez pouvoir jouer dans l'un des trois groupes qui est proposé. Trois groupes qui sont basés sur les réelles croyances des personnages, des croyances secrètes, puisque dans cette ville d'Aberdeen, normalement, tout le monde est censé croire en la Bible d'Aberdeen. Là, donc, on a trois groupes. Le groupe des The Good Free Ring, Doubt Fully et Mutineur. Donc suivant la croyance, soit vous croyez beaucoup, soit vous croyez pas du tout. Bien sûr, là aussi c'est évolutif, hein, ça peut changer en cours de route, quelqu'un qui ne croit pas, peut-être qu'il devient croyant, bref, voilà. C'est surtout parmi ces trois groupes que vous allez être sur ce forum. Vous avez également, et ça c'est pas mal du tout, la possibilité de créer un personnage éphémère. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de faire du roleplay et vous dites « Oh, j'aimerais bien quand même, j'aime bien cette série, je pense qu'il faut quand même un minimum avoir vu cette série
Pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer.
Et moi,
oui,
qui ne l'ai pas vu, je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses. mais en tout cas, vous avez possibilité de créer un personnage éphémère, donc pour 1, 2, 3, 4 mois maximum, je crois. Donc un personnage que vous allez prendre juste parce que ça vous fait plaisir, mais après, avec le maître du jeu, vous allez voir comment va finir ce personnage. Il peut être mort, voilà.
Oui, on peut mourir facilement.
Tout simplement.
Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut mourir.
Voilà. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas tester un forum roleplay en faisant un personnage éphémère, du coup ?
Oui, c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée.
Faut pas trop s'y attacher, du coup, parce que si on finit par s'y attacher...
Ah non, c'est sûr. Alors, il y a possibilité, justement, également, si vous faites un personnage éphémère, de passer pour un personnage qui ne soit plus éphémère. Voilà. Ah. Également.
Tout est possible.
Tout est possible, voilà. Mais avec un petit système de points, justement, pour passer à un personnage non plus éphémère, du coup. Au niveau des annexes, pas mal de choses également. Donc vous avez le fonctionnement du forum qui est vraiment utile à lire. Également le fonctionnement de ces personnages éphémères. Ils vont vous expliquer voilà, combien de temps vous allez garder le personnage. Et si vous voulez passer vraiment avoir un personnage à part entière sur le forum, c'est possible. Également donc la chronologie du forum, la prophétie république de Gilead. Alors je ne sais pas si ça se dit Gilead.
Ou... Gilead.
Gilead, d'accord. République de Gilead, les classes sociales, Aberdeen, donc, le Centre Rouge. Également, donc, un système de points en participant à la vie du forum, qui est donc sous forme de tickets qui seront échangés au marché noir contre des objets pour votre perso, des objets qui seront utiles, des feuilles, des crayons. Je pense qu'on n'a pas accès à ça, du coup. Des feuilles, des crayons.
Non, les femmes, notamment, n'ont pas le droit de lire ni d'écrire.
Voilà, des anciens journaux, des vêtements de l'ancien temps, des téléphones portables, etc., etc. Voilà, ce seront sous forme de tickets, donc à échanger. Mais également, comme je vous disais, avec ces systèmes de points, ces tickets, vous allez également pouvoir les échanger contre un perso à part entière. Du coup, si vous aviez un perso éphémère, eh bien, vous échangez les tickets contre un perso à part entière. Voilà. C'est juste en participant à la vie du forum, donc en faisant du roleplay, en votant sur les top sites, etc. Voilà, vraiment en participant. Également un système de lancer de dés, voilà, pour pimenter un petit peu vos roleplays, pourquoi pas. Et bien sûr, le maître du jeu met des intrigues en place. Donc là, je crois qu'il y a une première intrigue qui est encore en cours. Donc voilà, si vous avez aimé la série Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, pourquoi pas aller sur ce forum roleplay, en plus avec les personnages éphémères, c'est nickel. Et pour aller sur ce forum, vous tapez praisedbe.forumactif.com. Vous ne savez pas l'anglais, vous ne savez pas comment ça s'écrit. Ce n'est pas grave, nous avons un blog, Elodie, quel est-il ?
Loadingradio.wordpress.com, et voilà, vous allez trouver toutes les informations sur les sujets que nous avons abordé lors de cette émission et des anciennes émissions.
Voilà, et vous allez donc pouvoir accéder à ce forum en un simple clic. Voilà pour le forum roleplay à l'honneur cette semaine. On repasse à la musique Et ensuite, eh bien, on parlera des sorties ciné à Troyes avec l'actu tournage.
Une BD avant, peut-être, non?
Ah oui, la BD. La BD, j'ai complètement oublié. La BD,
on
oui, bien sûr.
On parlera d'une BD.
Donc, ce sera une BD
D'une youtubeuse.
D'accord.
Enfin, une actrice, en fait, qu'on a vu beaucoup sur YouTube. Ça fait partie de la collection de Davy Moyen, case en main.
D'accord, encore. Voilà. Je les lis tous.
On va parler d'Eleanor Coste.
Ah, ok. Très bien. On écoute un petit Chuck Berry avec le titre You Can Never Tell. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, et sur campus3.fr. Elodie, donc, tu nous parles d'une BD.
Oui, qui s'appelle La soutenable légèreté de l'être. C'est donc de Eleanor Coste et Karen Sack. Lolo est hypochondriaque et angoissée. Jusqu'au jour où, hospitalisée, elle va enfin se confronter à ses 30 années de vie. Un parcours initiatique raconté dans un album ponctué de flashbacks à la fois drôles et touchants. Donc effectivement, c'est une BD en fait autobiographique, puisqu'elle elle parle d'elle et des soucis de santé qu'elle a. Alors c'est intéressant parce que moi je suis pas trop hypochondriaque, mais elle, elle l'est à fond. A priori, les gens qui le sont vont se retrouver totalement dans ce portrait et dans le fait qu'au bout d'un moment, à force d'aller voir le médecin, ben on sait plus, le médecin lui-même ne sait plus si c'est une vraie douleur ou pas, si c'est un truc imaginaire. Alors qu'en fait, si, elle a vraiment quelque chose, puisqu'effectivement, elle va aller à l'hôpital. Alors, rien de bien, bien grave, hein, tout va bien. Mais c'est traité, en tout cas, avec beaucoup d'humour. Eleanor Coste, elle est connue donc, en tant qu'actrice. Elle a beaucoup tourné avec le Golden Moustache, notamment. Et Studio Bagel aussi, il me semble peut-être bien. Je ne sais plus si elle a été chez eux aussi. Et elle a sa propre chaîne YouTube. Moi, je la suis pas mal sur Instagram, où, je ne sais pas, elle aime beaucoup péter. Elle fait beaucoup de blagues à base de paix. C'est, voilà. Et du coup, donc dans cette BD, on voit aussi bien ce qui se passe au jour le jour, mais elle revient également sur des épisodes de sa vie. Donc il y a pas mal de flashbacks. Alors le tout est noté. On a ce qui se passe au jour le jour est plutôt en bleu. Oui. Et puis quand on fait un petit flashback, on est plutôt dans des tons jaunes. Ça permet de s'y retrouver un peu parce que j'avoue que c'est pas toujours évident. C'est dommage là-dessus. J'ai trouvé que parfois c'était un peu je dirais pas brouillon, mais on saute un peu du coq à l'âne parfois. Mais je pense que comme quelqu'un qui raconterait une histoire, d'un seul coup qui pense à quelque chose et qui... Donc des fois, c'est un côté un peu décousu. Et à côté de ça, le dessin, j'ai beaucoup aimé le dessin de Karen Sack, qui en plus, c'est, enfin, pour... avoir vu des photos des parents d'Éléonore, de sa sœur, tout ça, ça représente assez bien les persos. D'ailleurs, vous avez aussi retrouvé quelques personnages du Golden Moustache, si vous cherchez un peu. Donc, c'est assez coloré, puis c'est vraiment un dessin BD. Donc, ça permet d'atténuer aussi un peu le côté... comment dire, sérieux du fait qu'elle est hypochondriaque. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et c'est une BD sympathique à lire. Voilà. Moi, je m'y suis un peu moins retrouvée, mais peut-être que si vous êtes hypochondriaque, vous y retrouvez un peu plus. Mais voilà, il y a plein de moments un peu rigolos. Enfin, voilà, il y a pas mal de bonne humeur. Et puis, on a également, à la fin de la BD, quelques petites photos de famille et des personnages, justement, qu'on a retrouvés dans cette bande dessinée-là. Donc voilà, je vous la conseille, c'est sympathique, une petite BD sympa.
Légère comme son
titre. Ouais, c'est ça, légère, parce que même si... je pense que c'est un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur, mais vraiment, elle ne se prend pas au sérieux. Des fois, on se demande d'ailleurs si... Enfin, a priori, si, tout est vrai, mais c'est vraiment avec beaucoup de légèreté, effectivement, d'où le titre, La soutenable légèreté de l'être.
Ok.
Donc voilà, je vous conseille. C'est très sympa. Puis j'aime beaucoup le dessin. J'avais jamais trop vu les dessins de Karen Sack et c'est plutôt sympa. Le duo, c'est bien trouvé. Voilà.
Ok. Voilà,
donc
très
la
bien.
Soutenable légèreté de l'être d'Eleanor Coste et Karen Sack.
Très bien. D'ici quelques minutes, on passera donc aux sorties ciné à Troyes, avec l'actu tournage, la petite rubrique « Que sont-ils devenus ?» Qu'est-elle devenue cette actrice de film des années 80 ? Est-ce que ce sera facile à deviner la musique?
Je sais pas.
On verra.
80, c'est loin. Hein.
Oui, oui, très loin. Surtout c'est début 80.
Oui, c'est un peu petite. Hein.
Oui, tu avais un an.
Un an? Oula.
Voilà. Et puis ensuite, on finira par une série documentaire, c'est bien ça?
Oui, très bien, oui, c'est ça.
On écoute Stereophonics avec Not Up To You et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Qu'y a-t-il à l'affiche? Pas mal de films cette semaine encore à l'affiche, avec le film Bienvenue à Marwen, réalisé par Robert Zemeckis avec Steve Carell et Leslie Mann. L'histoire de Mark, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. Bienvenue à Marwen, c'est à voir actuellement au CGR. Autre film qui sort cette semaine, Premières Vacances, réalisé par Patrick Cassir avec Camille Chamou et Jonathan Cohen. Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun, mais les contraires s'attirent et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances, malgré l'avis de leur entourage. Ils partiront finalement en Bulgarie, à mi-chemin de leur destination rêvée, Beyrouth pour Marion et Biarritz pour Ben. Sans programme précis et comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve. Premières Vacances, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Un beau voyou, réalisé par Lucas Bernard, avec Charles Berling et Swan Harlow. Le commissaire Beffroi attend la retraite avec un enthousiasme mitigé, quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l'élégance du procédé, l'audace du délit, la beauté de l'œuvre volée? Beffroi se lance à la recherche d'un voleur atypique, véritable courant d'air, acrobate à ses heures. Un beau voyou, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Undercover, une histoire vraie, réalisée par Yann Demange avec Matthew McConaughey et Richie Merritt. À Détroit, dans les années 80, au plus fort de la guerre contre l'épidémie de crack, voici l'histoire vraie d'un père d'origine modeste, Richard Wesch, et de son fils Rick Jr., un adolescent qui fut informateur pour le compte du FBI, avant de devenir lui-même trafiquant de drogue et qui, abandonné par ceux qui l'avaient utilisé, fut condamné à finir ses jours en prison. Undercover, une histoire vraie, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Et enfin, la sortie d'une femme d'exception, réalisée par Mimi Leder, avec Felicity Jones et Armie Hammer. Jeune avocate idéaliste, Ruth vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme. Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. Une femme d'exception, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Et puis vous avez deux sorties décalées, la sortie d'une affaire de famille réalisée par Hirokazu Koreeda avec Lily Franchi et Sakura Ando, qui était sortie au mois de décembre, donc qui sort maintenant au CGR à 3. Et puis un film d'animation, Mimi et Lisa, Les Lumières de Noël, bon c'est sûr, c'est en sortie décalée du coup, oui. Mais il était sorti fin novembre.
Ça va prolonger la magie de Noël.
Voilà, tout à fait. Donc c'est réalisé par Katarina Kereze Kerekezova et Ivana Sebestova. Voilà, donc Mimi et Lisa, Les Lumières de Noël, un film d'animation. Donc c'est un programme de 4 courts-métrages pour les enfants. Voilà, donc c'est à voir également au CGR à 3. Et puis, vous avez une avant-première, l'avant-première de Creed 2. Ce sera lundi 7 janvier à 19h40 et 22h20. Et puis, avec ça, il y a une soirée spéciale, un pack de 2 films. Toujours le lundi 7 janvier, vous pouvez voir le film Creed 1 à 19h40 et en avant-première donc à 22h20 le film Creed 2 du coup. Voilà, donc ça c'est au CGR à 3. Du côté de l'actu tournage, Guillermo del Toro va produire le film d'horreur Terrified. Peut-être que vous vous souvenez ou pas de ce film qui était sorti en octobre 2017. Terrified, c'était un film d'horreur de Demian Runa, tourné en espagnol dans les quartiers de Buenos Aires. je le dis en espagnol du coup.
Je savais pas que ça se prononçait comme ça en espagnol.
Tourné en espagnol dans les quartiers donc de Buenos Aires, va faire donc son grand retour dans une adaptation signée Guillermo del Toro. Albrecht, Jeannot et Rosenthal, les chasseurs de fantômes argentins, reprennent du service. Ils sont très fortement invités à élucider des événements d'outre-tombe et à aider des victimes sérieusement traumatisées. Effectivement, la Fox Searchlight a demandé à Sacha Gervasi d'écrire un remake du film d'horreur venu tout droit d'Amérique du Sud. Le film sera produit par Guillermo del Toro, prolongeant ainsi sa relation avec Searchlight, hein, qui avait été couronnée de succès avec La Forme de l'eau, qui a été lauréat de 4 Oscars en 2018, hein, dont celui du meilleur film. Alors la base plutôt solide de ce prochain cauchemar se dessine en une situation simple, mais qui peut être très efficace. Lorsque des événements étranges se produisent dans un quartier de Buenos Aires, un médecin spécialisé dans le paranormal, sa collègue et un ancien policier sont appelés pour enquêter.
C'est Ghostbusters, quoi.
Voilà. Les constatations sont horribles et la perversité doit être arrêtée avant qu'elle ne se propage. Ouais, un petit peu...
Mais en plus
avec
effrayant.
Guillermo del Toro ou Ghostbusters, je pense que ça serait...
Parce que tu le dis sur un ton très enjoué, on a l'impression que c'est une comédie, en fait.
Non, pas du tout.
D'accord.
Donc, si l'original porte la plume de Demian Runa, la version anglophone de ce thriller horrifique va bénéficier du talent de Sacha Gervasi, dont le génie passé comprend notamment le film Le Terminal et Hitchcock. Et c'est le scénariste, réalisateur, producteur del Toro qui s'occupera de produire ce nouvel opus. Cinéaste mondialement connu maintenant, hein, notamment pour son film Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, Pacific Rim, Crimson Peak et tant d'autres. Hein, et dont les projets à venir sont des histoires effrayantes, absolument pas pour les enfants, comme il le décrit lui-même, notamment pour son prochain film Pinocchio. Voilà. Le réalisateur de Bumblebee a déjà des idées pour une suite. Et
ah
oui,
mon Dieu.
Voilà, Bumblebee, le spin-off de Transformers centré sur l'Autobot jaune. On découvre comment il a aidé à la survie de son espèce 20 ans avant les événements du premier film. Mais l'intérêt du film n'est pas vraiment dans cette histoire de guerre entre Autobot et Decepticon. Il se trouve davantage dans la relation entre Bumblebee et la jeune Charlie, une adolescente qui le découvre dans une décharge sous l'apparence d'une coccinelle. Rapidement, une amitié se crée entre eux et Charlie, toujours peinée par la mort de son père, trouve en Bumblebee un réconfort. Donc le film qui rappelle un petit peu le géant de fer ou encore très loin, E.T., hein, se montre grâce à Travis Knight plus familial, léger et intime. Si la critique a dans son ensemble bien accueilli Bumblebee, il en va de même pour le public. Sans être exceptionnel, ses résultats au box-office sont honorables. Du coup, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant qu'une suite ne soit évoquée. Même si le film fonctionne comme un one-shot, hein, le réalisateur a d'ores et déjà des idées. Alors, il reste un petit peu vague. Il est intéressant de noter que Travis Knight semble vouloir faire revenir Charlie, ce qui ne serait pas pour déplaire peut-être les fans. L'héroïne étant un des points forts du film et permettant donc au public de s'identifier, il serait néanmoins dommage que la Paramount cherche à relancer la franchise Transformers en reproduisant simplement les premiers films avec un nouveau personnage encore et encore. Donc voilà, c'est bien en s'éloignant de l'action et en se voulant un peu plus intime que ce Bumblebee est parvenu à se démarquer. Donc pas sûr que cette fraîcheur fonctionne aussi bien sur d'autres films. Donc reste à voir hein, ce que décidera de faire la Paramount, de poursuivre avec Bumblebee et Travis Knight, ou alors non. Donc affaire à suivre. En tout cas, Bumblebee est en salle depuis le 26 décembre. Voilà. Affaire à suivre. On en arrive à notre rubrique « Que sont-ils devenus ?» Qu'est-elle devenue cette... Tiens, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette actrice de ce film
donc,
des années 80.
Quel film ?
Un film culte, quand même. Ah. Qui est devenu un film culte. Et donc, comme d'habitude, eh bien, un petit blind test sur le générique. Et là, c'est le générique d'intro. Du
83, c'est ça, hein ?
On est en 83, oui. T'as une idée, non ? Là, comme ça, non.
Comme ça, non, un film culte de 83.
Un film culte 83. Et donc, eh bien, bah, je vais te passer la musique et peut-être que vous, qui nous écoutaient pourraient deviner ce que c'est. Ça commençait comme ça. Avec un son très années 80.
Du troisième type,
du tout.
Que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos.
Ben ça fait longtemps que j'ai pas vu cette tête.
Non, je cherche. Les sons me disent vaguement quelque chose. Mais...
Ah oui, sûrement. Alors, ce n'est pas un film pour enfants. Ce n'est pas un film français.
Ok.
Je vais pas te dire le réalisateur ni l'acteur, parce que je pense que tu vas deviner tout de suite. C'est un film violent.
Ok. Que j'ai peut-être pas vu.
Oui, mais tu en as entendu parler. Ouais. Ça, c'est sûr.
Pas Apocalypse Now ?
Non.
C'est de pluie en plus.
Un film violent qui parle de drogue.
Ok.
Mafia.
Je sais pas. Je sais pas du tout.
Brian De Palma, réalisateur.
Ouais,
Al Pacino.
Je sais pas.
Scarface.
Ah, j'ai jamais vu.
D'accord.
Je n'aurais pas pu
mais tu pourras le voir parce qu'il est sur Netflix. 2h49 quand même le film.
Ouais.
Je dis ça comme ça.
C'est un classique en plus.
Oui, et puis c'est vrai que voilà, c'est devenu vraiment un film culte. Il est quand même assez violent, même pour l'époque. Même au niveau du langage, il est violent. Alors, Scarface, oui, c'est un film de 83 réalisé par Brian De Palma. En mai 1980, Fidel Castro autorise les opposants qui le souhaitent à quitter Cuba. Il en profite pour envoyer vers les États-Unis les malfrats devenus indésirables dans l'île. Et c'est ainsi que Tony Montana, un tueur mégalomane, se met à vivre son rêve américain. En deux temps de trois mouvements, il devient le bras droit de Frank Lopez, un mania de la drogue, qu'il ne tarde pas à éliminer. Ainsi propulsé patron, il épouse au passage la veuve de sa victime. Voilà en tout cas le synopsis de Scarface. Scarface que j'ai revu il n'y a pas longtemps, alors que j'avais pas vu ça depuis, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans au moins le film. Il se regarde toujours bien, je trouve.
D'accord.
Il y a vraiment des scènes bizarre, en plus.
J'ai aucune envie de le voir, ce film.
Il est vraiment très bien. Et peut-être que vous avez deviné ce que c'était cette musique, du coup. Alors, de qui va-t-on parler? Puisque, la blonde, c'était Michelle Pfeiffer. Donc, ce n'est pas d'elle que je vais parler. C'est de la sœur de Tony Montana, Gina Montana, qui était incarnée à l'écran par Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui a aujourd'hui 60 ans. Et oui, déjà. Et qui était vraiment une comédienne qui était un petit peu propulsée grâce à ce film. Elle n'a pas commencé tout de suite par ce film, elle a commencé, je crois, par... Non, je crois que c'était en même temps, c'était la même année. La valse des pantins de Martin Scorsese et Scarface de Brian De Palma.
Oh, c'est pas mal.
C'est pas mal, oui.
Après, son visage me dit vaguement quelque chose, mais j'ai un doute. Il y a deux films où je pense l'avoir vu, mais...
Oui, je pense aussi. oui, je pense. Que tu... En plus, je pense
qui ne sont pas des moindres, d'ailleurs.
Abyss.
Par exemple, voilà.
Et
Robin Desbois. Voilà, c'est Marianne.
C'est ça. Oui. Donc, Marie-Elisabeth Mastrantonio, donc elle a vraiment commencé fort, hein, je veux dire, elle a fait donc en 83 La valse des pantins de Martin Scorsese, Scarface de Brian De Palma, où elle joue Gina, même si c'est pas un rôle énorme hein, au final, mais c'est un rôle quand même marquant dans Scarface.
Elle a un look,
et elle
sur
a
la photo que t'as mise.
Une coiffure.
Oui, c'est ça, c'est années 80.
Et puis ensuite, elle va rejoindre à nouveau Martin Scorsese pour faire La couleur de l'argent. Donc Abyss en 89 hein, de James Cameron.
Qui a beaucoup fait parler de lui. Hein. Ils avaient tourné dans comment on appelle ça, une cheminée, enfin un truc énorme pour refaire les fonds marins. Enfin, c'était assez impressionnant comme tournage celui-là. Oui.
Et puis en 91, elle a joué donc dans Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Année 80, elle était vraiment très populaire, Marie-Elisabeth Mastrantonio. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Alors, elle a continué un petit peu à jouer, on va dire à peu près jusqu'en 2005, au cinéma. Donc, elle va également jouer en 2000 en Pleine Tempête, de Wolfgang Petersen. Donc, dans d'autres films, Jeux d'adultes, d'Alan Jipakula, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Tabloïd de David Blair. Voilà, quelques films. Pas non plus une énorme quantité de films, je veux dire, mais des films quand même qui sont marquants. Hein, voilà. Et puis, à la suite de ça, elle va se marier, elle va avoir deux enfants. Et elle va vraiment arrêter le cinéma pendant un bon moment, pendant plusieurs années. Elle va vraiment se consacrer à l'éducation de ces deux garçons. Mais à côté de ça, elle va quand même un petit peu tourner, mais du côté de la série cette fois-ci. Elle a fait un petit peu de télévision, un peu de série. On peut noter, bien sûr, toujours les mêmes, en fait. FBI, Portée disparue, New York, section criminelle, où on fait une petite apparition comme ça, rapide. Dans la série Grimm, aussi.
Ah oui.
Oui, ouais, pendant plusieurs saisons. Oui, dans Blue Bloods, également. Dans Limitless, The Punisher, et plus récemment Blind Spot, également, où elle fait une petite apparition. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit truc, mais c'est vrai qu'elle se consacre vraiment plus à sa famille, à l'éducation de ses enfants, même si elle a également fait Broadway. Elle est montée sur les planches à Broadway. Voilà, en tout cas, elle passe sa vie à Londres, avec sa famille, son mari, je crois que son mari est réalisateur, il me semble. Donc voilà, ça va plutôt bien pour elle, mais elle a préféré choisir la famille plutôt que sa carrière.
Oui, bon, elle a l'air d'avoir une vie sympa.
Oui.
Enfin, elle n'est pas finie, hein, d'ailleurs. Mais
non, elle continue toujours à faire quelques petites apparitions à la télévision.
C'est vrai que
donc
c'est
le cinéma, c'est fini.
C'est une bonne actrice, on n'a pas... Enfin, c'est pas un nom qui revient forcément comme ça, mais... Le visage, tout de suite, on voit qui c'est, quoi.
Marie-Elisabeth Mastrantonio.
Ouais, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas un nom. Facile, facile.
On écoute un peu de musique et puis ensuite, tu nous parleras d'une série documentaire, c'est bien
oui,
ça
oui, pas du tout drôle.
D'accord, on finit bien l'émission.
Tu vas vous glacer un peu le sang. Oui, c'est vrai que je commence bien, je commence bien l'année.
C'est cool.
Voilà, ouais. Mais c'est une série qui m'a... Quand on commence à la regarder, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait.
Ok. On écoute Cocoon On My Way et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading avec du coup, Elodie, tu nous parles d'une série documentaire.
Ouais, documentaire. En fait, c'est une série qui est sur Netflix. Il y avait cette photo de nonne qui m'intriguait. D'accord. Alors, je suis allée voir, et donc c'est un documentaire qui traite du meurtre non résolu de sœur Cathy Sesnick, qui à 26 ans enseignait dans les années 60 l'anglais et le théâtre dans une école de la ville de Baltimore aux États-Unis. Et donc voilà, elle a été assassinée à l'âge de 26 ans. On ne sait pas qui l'a tuée. Et là, on va suivre le point de vue de certains anciens étudiants de cette école, et notamment deux femmes qui ont décidé d'essayer de démêler toute cette histoire et d'essayer de comprendre ce qui a pu arriver à cette sœur qui était si sympathique, si gentille. Et donc, ils pensent qu'on a voulu éviter des ennuis à quelqu'un. Que finalement, en recoupant un peu les témoignages, on a une idée de peut-être qui a pu la tuer et pour quelle raison. Et qu'effectivement, c'était pour... Ah non, je vais peut-être pas dévoiler, je vais pas dire.
D'accord.
Et du coup, j'ai commencé à regarder ça et l'ambiance de ce documentaire, moi qui évite généralement ce genre de choses-là, genre fait entrer l'accusé, tout ça, j'aime pas trop, parce que c'est quand même des histoires vraies. Et je trouve ça effrayant de savoir que des choses aussi terribles ont pu se produire. Bah là, ça m'a happé et j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, ce que cette sœur qui avait l'air voilà si sympathique, pourquoi on l'avait assassinée. Et alors la série dure 7 épisodes, donc c'est pas excessivement long. Et vraiment, on est dans l'enquête et on essaie de comprendre pourquoi il y a des choses qui ont été mises de côté, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est captivant. Voilà, c'est captivant. Et alors, si je vais quand même vous le dire, c'est qu'on ne sait pas trop en fait ce qui lui est arrivé, malheureusement. Mmh. On a quand même une idée, une très grosse idée de qui est derrière tout ça. Mais ça fait froid dans le dos. Donc, si vous n'aimez pas ce qui fait peur, il ne faut pas regarder ça, parce qu'en plus, c'est vrai, donc c'est terrible. Mais en tout cas, c'est une série qui est extrêmement bien réalisée, qui s'appelle The Keeper, je ne sais plus si j'ai dit le titre, et qui est fascinante autant que terrifiante. Donc, si vous n'avez pas peur de vous faire peur, je vous conseille vivement cette série et de suivre cette enquête sur ce meurtre non résolu, malheureusement.
Donc, ça s'appelle
The Keeper.
D'accord, très bien.
Voilà, c'est sur Netflix.
Merci Elodie. Eh bien, nous, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouvera dans 15 jours. D'ici là, passez une très bonne année encore.
J'allais dire très bonnes fêtes.
Oui, mais
non, c'est vrai, faut arrêter là.
C'est fini. En tout cas, passez une très très bonne année. J'espère que vous avez été bien gâtés à Noël avec des consoles, des jeux de plateau. Moi, j'ai eu un jeu.
Ouais. Moi, j'ai eu plein de BD.
Une console plutôt. Et voilà.
Ah oui, je vois.
Une mini console.
Une mini console.
Bon, allez, d'ici là, passez une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve donc dans 15 jours. Ciao, ciao, bye bye.
Ciao.